initiation à la musique tunisienne.
Le nom de derbeb a toujours été attribué par les Arabes à leurs instruments à cordes interceptés dont l'agitation s'obtient par leur frottement avec une mèche de crin tendue sur un arc. Tout instrument à archer était pour eux un derbeb.
Al-Farabi, l'un des premiers musicologues arabes au Xe siècle de l'ère chrétienne, rapporte que le derbeb, connu de son temps, était parfois doté d'une seule corde, mais qu'en général, il en comportait deux jumelées, ou encore l'une d'elles seule et la corde jumelle étant toujours la deuxième. L'auteur ne donne cependant aucune description de la forme de l'instrument, aucune idée de sa structure, sa silhouette ou ses dimensions, mais en se reportant au tunbur, une espèce de mandoline à manches longs pour parler de certaines particularités du derbeb, il laisse entendre que l'instrument avait un manche assez long.
Ceci est du reste confirmé par l'aspect derbeb qu'on emploie aujourd'hui dans tous les pays arabes d'Orient. Ils se distinguent tous par une table de résonance relativement petite et un manche très long. L'aspect de la caisse est variable. Elle affecte parfois la forme d'une demi-sphère et elle est alors faite en général d'une demi-calebasse ou d'une demi-poire. Son aspect habituel est celui d'un corps de forme trapézoïdale avec un cadre de bois aux parois droites et hautes d'à peu près 5 à 6 cm et sur les deux bords duquel sont collées deux feuilles de parchemin. Une longue pièce de bois de 90 cm de forme cylindrique traverse le cadre de la boîte de haut en bas pour ressortir au-delà de la base et servir de pied avec une pointe de fer au bout. La partie non engagée du cylindre, sa partie supérieure, constitue le manche de l'instrument. L'exécutant le tient à plat dans la main gauche pour intercepter les cordes avec les doigts. Le bout supérieur du manche, terminé par un motif décoratif, exécuté autour, est percé dans le sens de la longueur d'une fente assez large dans laquelle s'engagent les cordes pour s'enrouler autour des chevilles qui en traversent les parois de part en part. Voilà la conformation du derbeb arabe oriental.
L'instrument appelé aujourd'hui erbeb en Tunisie par les musiciens des orchestres classiques ne ressemble guère au erbeb oriental, bien qu'il soit lui aussi un instrument à archer doté de deux cordes. Ni sa structure, ni sa silhouette, ni aucun de ses éléments ne l'y apparente. Ce qui rend la discrimination entre les deux types plus frappante encore, c'est l'existence d'un manche assez long dans le type oriental et l'absence totale dans le type maghrébin, où il est remplacé par la partie supérieure assez mince du corps de l'instrument. La tradition orale attribue au erbeb maghrébin une origine hispano-arabe. Ce seraient les réfugiés musulmans d'Espagne qui l'auraient introduit dans les pays d'Afrique du Nord avec leur musique, musique conservée jusqu'à nos jours avec une touchante piété, nous l'avons déjà dit, souvenir de l'Andalousie, paradis perdu, vers lequel va encore la pensée des intellectuels arabes, surtout ceux du Maghreb, dont, ne l'oublions pas, un grand nombre se rappellent encore leur origine espagnole.
Le erbeb maghrébin, si différent du erbeb oriental, a cependant une certaine ressemblance avec l'instrument connu en Europe durant une bonne partie du Moyen-Âge et jusqu'au XVIIe siècle sous le nom de rebec, terme dont l'origine arabe est trop apparente pour nécessiter une justification.
Par quel processus l'erbeb oriental, introduit sans doute en Espagne au 8e siècle par les conquérants arabes, s'est-il transformé pour aboutir en erbeb maghrébin que la tradition attribue aux musulmans d'Espagne? C'est là un sujet d'étude offert aux investigations des savants qui s'intéressent à l'interpénétration des civilisations.
L'erbeb ne figure plus depuis déjà assez longtemps dans les orchestres tunisiens, où il est remplacé par le violon européen, notamment l'alto, incontestablement plus riche en ressources et dont la sonorité plus claire s'adapte mieux à la voix. Seuls quelques rares artistes sachant encore jouer de cet instrument de maniement fort difficile apparaissaient de temps à autre, au commencement de ce siècle, dans les orchestres spécialisés de la musique traditionnelle. Aujourd'hui, les spécialistes de l'erbeb ont complètement disparu. À peine existe-t-il encore un ou deux amateurs qui, plutôt par curiosité que par intérêt, se sont donné la peine d'étudier la technique assez bien pour en jouer proprement. Nous allons vous faire entendre une improvisation sur le violon accordée à la tunisienne et jouée selon une technique proche de celle du erbeb.
Thank you. Voulez-vous que nous décrivions maintenant ce curieux rebeb tunisien, à moitié disparu et pourtant présent, mais pour combien de temps encore? Le rebeb ne sera plus bientôt qu'une pièce de musée.
Eh bien, le rebeb tunisien se compose de quatre éléments essentiels. La caisse de résonance, le chevillet, la monture de corde et l'archet. La caisse de résonance, vue de face, rappelle la silhouette que présente un avant-bras depuis le coude jusqu'au poignet. Vue de profil, elle a l'apparence d'une demi-poire, exagérément allongée, sectionnée dans le sens de la longueur. Vue de dos, elle a l'aspect d'une aubergine de dimension anormale, 40 à 50 cm de haut, 12 cm dans le plus grand diamètre de son renflement inférieur et 5 à 6 cm au sommet.
La boîte a été taillée en un seul bloc dans la masse d'une grosse pièce de bois de noyer ou de cèdre, et ce bloc a été ensuite creusé et soigneusement évidé pour acquérir la forme d'une coque assez épaisse. Polie à l'intérieur et à l'extérieur, cette carapace a acquis une résonance de belle qualité. Les bords de la boîte ainsi façonnée ont été ensuite abaissés d'à peu près 1 cm sur la moitié environ de leur longueur, à partir de la base renflée, et sur cette partie basse des bords de la boîte, une feuille de parchemin solide a été collée.
Les bords de la boîte sont parfois aussi arrondis et étranglés vers le milieu, pour permettre un jeu aisé de l'archet. Dans la partie supérieure de la boîte, sa partie effilée, le long de chacune des deux parois latérales, une rainure a été faite au niveau de la feuille de parchemin qui couvre la partie inférieure. Dans cette rainure est fixée une plaque de cuivre gravée et ciselée. Elle montre à jour trois motifs ronds d'arabesques superposés, disposés selon l'ordre décroissant de leurs dimensions, en commençant par le bas. Cette partie mince de la boîte s'appelle qabda ou poignet. C'est par là, en effet, que l'exécutant empoigne l'instrument de la main gauche, le pouce appliqué au dos de la boîte et les autres doigts arrondis sur la face pour atteindre les cordes au-dessous du sillet. Sur chacun des deux côtés de cette partie mince de l'instrument, qui fait office de manche, sont parfois percés trois trous pour servir d'ouïe.
Le chevillet est inséré à la partie supérieure de la boîte de résonance, avec le dos de laquelle il forme un angle à peu près droit. Au sommet extérieur de cet angle est fixé le sillet, une baguette assez épaisse, d'os ou d'ivoire, dont une des arêtes, celle qui porte les cordes, est arrondie. C'est une boîte obtenue en creusant une pièce de bois en forme de parallélépipède rectangle droit, long d'à peu près 12 cm, large de 3 à 4 et haut de 2 à 3. Son côté opposé au sillet est découpé en forme d'un arc brisé outrepassé ou selon un tout autre motif décoratif.
La monture est de deux grosses cordes en boyau de mouton, d'un calibre plus gros que celui des cordes que l'on monte d'ordinaire sur les luths et les violons. Attachées à un bouton fixé à la base de l'instrument, les deux cordes passent le long de la feuille de parchemin et de la plaque de cuivre pour atteindre le sillet et ensuite chacune l'une des deux chevilles. Un chevalet, long de 4 à 5 cm, maintient les deux cordes à une distance d'à peu près 2 cm de la face de l'instrument, et à cette même distance, à peu près l'une de l'autre. Ce chevalet est fait de la moitié d'un morceau de gros roseau, placé obliquement à peu de distance du bord de la table de parchemin, la partie arrondie tournée vers le bas de l'instrument. Les cordes de Rebeb sont accordées à la quinte. Elles produisent en général l'une un son correspondant au sol de la notation européenne et l'autre un son correspondant au ré.
L'archet du rebab est courbe, lourd et court, ne dépassant parfois que de peu la moitié de la longueur de l'instrument. Il est constitué par une mèche de crin de cheval, de la largeur d'un doigt environ, tendue sur un arc fait d'un roseau recourbé ou de bois découpé. Dans ce dernier cas, il est parfois recouvert d'incrustations de nacre. L'exécutant tient l'un des deux bouts de l'arc entre l'index et le médius de la main droite, le pouce étant au-dessous de la mèche et l'annulaire et le médius au-dessus, pour en régler la tension par leur pression. En passant sur les cordes, la mèche ne les attaque pas à plat comme dans le jeu du violon, mais par le bord.
Pour jouer du rebeb, l'exécutant, assis et les jambes croisées, tient l'instrument entre le pouce et l'index de la main gauche, bien appuyé sur le creux de l'arcade formé par ses deux doigts. Il le pose ensuite sur son genou droit dans une position oblique par rapport à son corps, le chevillé appuyé sur son épaule gauche. Dans cette position, les doigts de la main gauche peuvent facilement jouer sur les cordes et même se déplacer vers le bas.
Les cordes du rebab sont trop grosses et leur tension trop grande pour qu'une pression normale des doigts exercée par le haut puisse les mettre en contact avec la face de l'instrument. Y parviendrait-on, du reste, qu'on les aurait tellement étirés que cette élongation fausserait les rapports des sons et les estimations visuelles auxquelles se reporte instinctivement l'artiste. Pour obvier à cet inconvénient, les joueurs de rebab interceptent les cordes par crochetage latéral. Cette particularité du jeu du rebab maghrébin le distingue davantage encore de son homonyme oriental, le crochetage des cordes par le côté qui consiste en une pression des doigts dirigés de droite à gauche s'opère cependant avec une certaine délicatesse de sorte que les doigts du joueur semblent ne faire que glisser, se promener sur le côté des cordes.
Il résulte de cette technique spéciale au jeu du rebab que les sons produits sortent accompagnés en général chacun de sa première harmonique, ce qui leur donne un débit ronronnant et un timbre empreint d'une certaine mélancolie qui a son charme. Les artistes algériens et marocains qui jouent encore d'Urbeb s'en servent comme d'une basse pour marquer les points de repère de la mélodie, se bornant à en dessiner le schéma. Mais les Tunisiens, loin de se contenter d'un tel accompagnement rudimentaire, s'efforcent en général avec succès de rendre la mélodie tout entière, dans ses moindres sinuosités et avec toutes ses fioritures. Le qanoun est un instrument à cordes horizontales tendu sur une longue table de résonance et au-dessus desquelles le joueur tend les deux bras pour les pincer avec les deux index.
Récemment introduit dans l'orchestre classique tunisien, le qanoun n'a pas tardé à y acquérir une place de choix et à décrocher un titre de noblesse. Cette faveur, il l'a due sans conteste au timbre cristallin et à l'intensité pénétrante de ses notes, mais aussi à l'activité spectaculaire de l'artiste qui en joue. Les deux mains tendues au-dessus de l'instrument comme celles d'un spirit en transe, l'oreille perpétuellement sur le qui-vive, il est toujours prêt à rectifier la tension de telle ou telle corde en donnant telle ou telle fraction de tour à l'une des multiples chevilles alignées en rang serré sur sa gauche. Tout cela fait que le joueur de qanoun force l'intérêt du spectateur autant qu'il le charme par sa musique.
Le qanoun est un instrument à cordes pincées du type polycorde sans manche. Comme la lyre sitar, l'instrument classique de la Grèce antique, le qanoun est monté de cordes vibrant à vide, des cordes qui produisent chacune un son unique, dont on varie l'acuité par la simple modification de la tension de la corde, sans avoir recours en principe à son raccourcissement. Comme le psaltérion qu'avait connu l'Europe occidentale avant ce siècle et dont on attribuait volontiers l'origine aux Hébreux de la Bible, les cordes du qanoun ne sont pas tendues dans le vide, comme dans la sitar, mais parallèlement à la caisse de résonance.
Mais s'il ressemble à la sitar et au psaltérion par des éléments essentiels, le qanoun en diffère cependant par une particularité qui constitue sa caractéristique. Ses cordes ne sont pas, comme dans les deux autres instruments, toutes de longueur égale, et leur position normale n'est pas la verticale, mais l'horizontale. Le joueur de qanoun pose en effet son instrument à plat sur les genoux pour disposer librement de ses deux mains et tendre les deux bras au-dessus des cordes.
Ajoutez que le qanoun ressemble par la position horizontale de ses cordes aux itères viennois et aussi aux tympanons, quoique les cordes de ce dernier sont frappées à l'aide de deux baguettes et non pincées à la main. Et tout en ressemblant à chacun de ces instruments par la nature ou la conception de tel ou tel de ces éléments, le qanoun en diffère par une particularité de sa table de résonance qui, au lieu d'être carrée ou rectangulaire, a une forme trapézoïdale dont l'originalité attire l'attention.
Thank you.
La caisse de résonance est une boîte haute d'environ une dizaine de centimètres. Sa forme est celle d'un trapèze rectangle. Celui des deux côtés non parallèle qui est perpendiculaire sur les deux bases est toujours placé à la droite du joueur. Le fond de la boîte est fait d'une plaque de bois dur, léger et lisse, solidement fixée au bord inférieur du cadre. Quant à la couverture qui constitue la table d'harmonie, elle est partagée en trois parties distinctes.
La première partie, à compter du côté perpendiculaire aux deux bases, est une plaque de bois dur ou de cuivre, juste assez large pour porter le tire-corde. La deuxième partie est faite d'une large bande de parchemin sur laquelle repose un long chevalet, par 4 ou 5 pieds. La troisième partie recouvre le reste du cadre. Faite d'une plaque de bois dur et léger, elle porte en son milieu 2 ou 3 ouïes sous forme de motifs d'arabesques ronds et ajourés. Le reste de sa surface est en général recouvert d'ornements en marqueterie où la nacre, l'acajou, l'ébène et l'ivoire sont les éléments habituels. Ces mêmes dessins sont reproduits sur les parois de la boîte.
Sur le côté oblique de la boîte, le côté placé à la gauche du joueur est fixé à l'aide d'une vis, une assez large et épaisse pièce de bois. Cette pièce dépasse le bord de la table d'harmonie comme une moulure saillante en forme de talon droit ou de tout autre motif ornemental d'ébénisterie. À l'endroit où elle touche le sommet de l'angle aigu du trapèze, la pièce de bois se termine par un motif en colimaçon semblable à celui qui termine le chevillet d'un violon. Cette pièce de bois est le porte-cheville qui est percé de haut en bas et verticalement d'autant de trous circulaires que l'instrument comporte de cordes. Considérées dans le sens de la longueur de la moulure, ces petites ouvertures, larges de moins d'un centimètre, sont disposées en 3 rangs rectilignes et parallèles entre eux et avec le bord du trapèze. Mais si on les considère dans le sens de la largeur de la dite moulure, elles ne paraissent disposées par groupes de 3, superposées en une ligne légèrement oblique. Les lignes formées par ces groupes sont parallèles entre elles.
Les chevilles sont de petits cylindres de bois durs de 6 à 7 cm de haut et d'un centimètre environ de diamètre. Elles sont parfois de forme légèrement conique. Enfoncées dans son trou, chaque cheville s'y maintient immobile, faute de jeu, et sa rotation, à frottement dur, devient de ce fait difficile, sinon impossible, sans l'aide d'une clé. La tête de chaque cheville est façonnée en forme d'un parallélépipède rectangle ou de pyramide tronquée aux faces peu inclinées. Dans les deux cas, la section de cette tête est carrée. Elle assure ainsi une emprise solide à la clé à canon carré dont on se sert pour tourner les chevilles.
Thank you. les cordes du kanoun sont en boyau et ne diffèrent pas beaucoup entre elles de calibre. Ce sont en général les mêmes dont on se sert en Europe pour les montures de violon. Il fut un temps où les luthiers arabes fabriquaient eux-mêmes les cordes de ces instruments, mais cette production artisanale est aujourd'hui remplacée par des produits manufacturés en Europe, préférés à cause de leur meilleure qualité. Les cordes sont disposées sur toute la largeur de l'instrument, par groupe équidistant de 3 unités. Les 3 cordes de chaque groupe produisent à vide le même son qui, de ce fait, acquiert plus d'intensité, plus de durée, plus de volume et un timbre dur très caractéristique. Les cordes, ou plutôt les groupes de 3 cordes, sont accordés selon les degrés de la gamme fondamentale de la musique arabe, où les tierces et les sixtes sont neutres par rapport à la gamme majeure européenne, c'est-à-dire diminuée d'environ un quart de ton.
L'étendue de l'échelle des sons du kanoun dépasse en général la double octave. Elle atteint souvent la triple octave et la dépasse parfois d'une quarte ou d'une quinte. Le nombre des notes de l'instrument, et partant celui de ses cordes, varie donc de 17 à 24 ou 25, et celui des cordes de 51 à 72 ou 75. Sur toute la longueur du do du tire-corde, placé sur le bord du côté droit du trapèze, à la droite du joueur, des clous groupés par 3, disposés en triangle, font saillie. Nouée par l'un de ces deux bouts autour de la tête arrondie de l'un de ces clous, la corde passe de là sur le chevalet appuyé sur la membrane de parchemin. Elle s'étend ensuite au-dessus de toute la table d'harmonie pour atteindre le scié et aller de là s'enrouler autour de la cheville correspondante. Le scié, fait de bois dur ou d'ivoire, porte des encoches perpendiculaires à sa longueur. Disposées par groupes équidistants de 3, ces entailles sont assez profondes pour empêcher le déplacement et les maintenir dans le même écartement.
Les modes mélodiques de la musique artistique arabe sont trop nombreux et trop variés pour s'accommoder d'une gamme unique, une même succession de sons, dont toutes les notes seraient maintenues dans le même ton. Un léger écart de degré entre telle ou telle de leurs notes constitue souvent la seule différence permettant de distinguer deux modes. Cette différence ne saurait donc être négligée sans faire perdre à l'un de ces deux modes sa seule caractéristique. On ne peut donc exécuter tous ces modes sur un kanoun dont toutes les cordes seraient maintenues dans un seul et même accord.
Pour être complète et permettre de reproduire toutes les nuances de ton du système mélodique arabe, l'échelle générale des sons doit comporter un minimum de 18 degrés par octave. Ce nombre a été porté en pratique à 25 pour rendre possible la transposition d'une même gamme modale sur d'autres degrés que celui de sa tonique habituelle. Pour être parfait, le kanoun devrait donc produire 25 notes, c'est-à-dire être monté de 25 groupes de 3 cordes chacun par octave. Or, un tel montage bornerait son registre à l'étendue fort restreinte d'une seule octave. Si l'on s'en tenait aux dimensions normales de l'instrument, celles qui permettent au joueur d'atteindre aisément toutes les cordes.
Comme dans la musique de la plupart des peuples civilisés, la gamme modale arabe comporte, on le sait, 8 notes par octave. Le joueur de kanoun n'a donc besoin que de 8 notes à la fois sur les 25 degrés de l'échelle générale pour jouer dans tel ou tel mode. Or, ces 8 notes, autrement dit ces 8 groupes de 3 cordes auxquels il doit chaque fois borner son jeu, il risque constamment, dans la frénésie de l'exécution, de substituer à l'un ou l'autre d'entre eux un degré voisin, étranger à la gamme, sans même se rendre compte de sa méprise avant de la faire. Pour ces raisons d'ordre pratique, on s'est donc borné à ne prévoir dans le jeu de kanoun que 8 notes par octave et 8 groupes de 3 cordes pour les produire. Et de ce fait, le joueur est fatalement amené à modifier l'accord des cordes à chaque changement de mode mélodique.
Thank you.
Lorsque l'exécution d'un morceau n'exige que quelques modulations passagères, le joueur de qanoun se contentait d'intercepter telle ou telle corde près du sillé avec le bout de l'ongle de son pouce gauche. Cette pratique demande cependant une habileté de virtuose et une faculté d'appréciation que l'on acquiert qu'après un long entraînement. Le joueur de qanoun était donc perpétuellement en butte à la difficulté d'ordre pratique des changements fréquents d'accords et aux inconvénients d'ordre acoustique de la pratique aléatoire de l'interception des cordes avec le bout de l'ongle du pouce gauche. Le jeu de cet instrument posait de ce fait un problème pour lequel chacun a cherché une solution.
Pour résoudre l'important problème d'un accord permanent des cordes du qanoun, pour éviter aux joueurs d'avoir constamment à tendre ou d'étendre une multitude de cordes et lui permettre de concentrer son attention sur son jeu, on a pensé vers le commencement de ce siècle à doubler le grand sillé de l'instrument d'un système de petits sillés auxiliaires. Ces sillés de rechange sont constitués par de petites clés mobiles pivotant autour d'un axe horizontal fixe comme l'abattant d'une tabatière. Relevez chacun de ces petits disques touches par en dessous et à la fois les trois cordes auxquelles il est affecté, les soulevant de peu pour en recevoir une pression juste suffisante pour le maintenir dans une position verticale.
Chaque clé est un petit rectangle de métal long d'un centimètre et demi environ et haut d'un centimètre. Sur le bord supérieur de chaque rectangle sont pratiquées trois encoches équidistantes, destinées à recevoir les trois cordes d'un groupe et à les maintenir parallèles. À son angle supérieur droit est découpée une oreille dans le sens de la diagonale, que le joueur tient entre le pouce et l'index pour abattre ou redresser le petit panneau. À la base de chacun des petits rectangles est façonnée une petite gorge tubulaire que traverse une petite tige autour de laquelle il pivote. Les deux bouts de la tige terminés en pointe et coudés à angle droit sont fichés dans le bois devant le grand sillé. Le système de charnière est parfois constitué par deux petites tiges qui, se détachant en saillie de chaque côté de la base du petit rectangle, viennent s'insérer dans la tête en anneaux de deux petits pitons vissés dans le bois sur lequel repose le grand sillé.
Les cordes du qanoun sont soumises à deux sortes d'accords. Un accord de base permanent et invariable que l'on obtient par la rotation des chevilles au moyen d'une grosse clé munie d'un canon à section carrée, et des accords secondaires occasionnels et variables que l'on obtient en rabattant ou en redressant les petites clés leviers mobiles. L'accord permanent, l'accord de base, se fait soit selon les degrés de la gamme fondamentale arabe composée de tons entiers et d'intervalles de trois quarts de ton, soit selon la gamme dite naturelle composée de tons et demi-tons. Sous les cordes qui produisent la note grave d'un intervalle de ton sont fixés trois leviers clés. Les cordes qui produisent la note grave d'un intervalle de trois quarts de ton sont munies de deux leviers, et celles qui produisent la note grave d'un demi-ton ne sont pourvues que d'un seul. Les distances auxquelles sont implantées les petites clés à partir du sillé sont calculées de telle façon qu'en redressant chacun d'eux, on raccourcit la corde d'une portion qui rehausse sa note d'un quart de ton. Chaque levier rabattu augmente la longueur de la corde de cette même portion et abaisse le degré de sa note du même écart de quart de ton.
Lorsqu'on procède à l'accord de base, on garde indifféremment les petites clés soit redressées, soit rabattues. Dans le premier cas, le jeu de l'artiste consiste à en rabattre telle ou telle lors de l'exécution en tel ou tel mode mélodique. Dans le second cas, son jeu consiste à les redresser. Il y a des canouns importés de Turquie qui comportent des clés en nombre suffisant pour redresser ou abaisser le degré de la note de chaque corde, successivement d'un intervalle de coma équivalent à 1/9 de ton. Si un pareil montage dénote un souci exagéré de la précision, il justifie cependant, par cela même, le nom de canon attribué à l'instrument. Ce nom, tiré du grec canon, signifie en effet, comme en grec, règle ou modèle.
Le joueur de canon dispose de deux accessoires importants et indispensables. D'abord une clé pour réaliser l'accord de l'instrument avant d'entreprendre une exécution et pour le corriger au besoin pendant le jeu. Cette clé est conçue comme les clés à tube droite dont on se sert d'ordinaire pour serrer ou desserrer les écrous carrés. Elle est dotée d'une tête en forme d'anneau, simple, ou ouvragée, mais assez grande pour offrir une prise solide à la main qui s'en sert pour tourner les chevilles dans un sens ou dans l'autre, selon qu'il s'agit d'augmenter ou de diminuer la tension d'une corde. L'autre accessoire est une paire de médiators. Ce sont deux petites lames de corne, de baleine ou d'écailles, minces, oblongues et étroites, que le joueur fixe au bout de ses deux index. Dépassant l'extrémité des doigts, d'un centimètre environ, elles sont maintenues en dessous à l'aide de deux bagues en cuivre ou en argent et la paroi large est de forme légèrement conique et dans lesquelles le joueur enfonce les deux index jusqu'à la deuxième phalange.
Voyons maintenant comment on joue du canon. Qu'il soit assis les jambes croisées à la tailleur ou sur un siège, les jambes pendantes et appuyées au sol, le joueur de canon tient son instrument sur ses genoux, le grand côté du trapèze contre lui et le côté oblique, celui qui porte les chevilles, à gauche. Après s'être assuré de la correction de l'accord, le joueur étend les deux bras au-dessus de l'instrument, les mains maintenues dans une position à peu près perpendiculaire aux cordes, et aussitôt commence le jeu. Dans un mouvement rapide, dirigé d'avant en arrière, les bouts flexibles des deux médiators se mettent alors à crocheter les cordes par le haut, produisant ainsi des sons secs, nets et cristallins, comme ceux d'une crécelle. Pendant que la main gauche attaque les cordes basses, produisant les notes graves, la main droite touche leur correspondante à l'octave aiguë, et le jeu continue ainsi sans interruption.